France Inter.
C'est comme pour un acteur, c'est la personnalité. Sa présence.
Vous répondrez non, ça serait de la bêtise.
Si tu veux être dans un de mes films, il faut que ça coule les ténèbres. Ok ?
Ça peut couler, hein.
On en parle. Tout.
Allez, action !
Ce qui sera encore mieux, c'est de rien dire.
Un mélodrame, disait Samuel Fuller, c'est un drame avec de la musique, ça tombe bien. On ajoutera un genre surtout pour explorer les sentiments les plus exacerbés, et ça, c'est tout à fait son genre. Bonjour tout le monde et salut Laurent.
Bonjour à tous, bienvenue.
Oui, un torrent romanesque et ce talent de plonger en nous humains. Bonjour Arnaud Desplechin.
Bonjour Christine.
Un homme blessé, un amour de jeunesse, la musique plus une dose de fantastique égale deux pianos. Votre nouveau film est la première fois avec elle. Bonjour Charlotte Rampling.
Bonjour.
Dans le film, la pianiste virtuose Elena, la mentor du héros Mathias Vogler. Mathias, le pianiste, l'amant empêché, c'est vous. Bonjour François Civil.
Bonjour.
Et une nouvelle étape dans votre parcours, une nouvelle grammaire, le Desplechin. Une troisième première fois dans ce film, bonjour Nadia Tereskevitch.
Bonjour.
Claude, l'amour de jeunesse et qui a laissé le destin choisir à sa place. Deux pianos sur les écrans mercredi prochain. Enfin, les sorties de la semaine entre Alger, l'Ukraine, l'Italie et la nouvelle vague. C'est parti.
France Inter. On aura tout vu. Christine Masson et Laurent Delmas.
Tu vois, tu t'es caché dans l'ornière, et moi, je suis venue te chercher.
Je crois que je dansais de joie quand tu m'as écrit.
Toutes ces années. Mathias a 16 ans. Je me souviens quand je t'ai déniché. Je donnais une classe à Vienne. Vous étiez 20 étudiants. Tous là, tellement fiévreux, sérieux, tous droits là. Je suis entrée dans la classe, et je t'ai choisi, toi.
Et je t'ai déçu.
Bien sûr, tu m'as déçu.
C'est ce que je fais de mieux dans la vie.
Tu es orgueilleux maintenant. N'essaie pas de me séduire, t'as un mou d'enfant. J'ai pas d'enfant.
Mathias Vogler, François Civil, dans Deux pianos, pianiste, rentre en France après un long périple à l'étranger, à Lyon. Il retrouve la mentor de sa jeunesse, Elena, c'est vous, Charlotte Rampling. Et il va rencontrer dans de drôles de circonstances son grand amour de jeunesse, c'est vous, Nadia Tereskevitch. Comment naissent les histoires, Arnaud Desplechin ? Parce que ça reste un grand mystère à chaque fois. Et alors cette fois-ci ?
Mais cette fois-ci, c'était... pendant un été, je pensais très fort à une scène. C'était une femme qui est une veuve trop jeune, comme ça. Et la perte de son mari est si soudaine qu'elle n'arrive pas à pleurer. Alors comme son mari lui racontait toujours des histoires, elle raconte une histoire drôle et c'est une histoire scabreuse. Alors tout d'un coup, c'est horriblement embarrassant pour elle et ça la met dans l'embarras. Alors je me suis dit, super, j'ai un début de film.
Mais c'est pas un film entier.
Mais c'est pas un film entier. Et je parlais avec un ami, Kamen Velkovski, à qui je désirais écrire. Et il me dit, alors moi c'est marrant, j'ai un autre début d'histoire, c'est un type qui revient du bout du monde pour retrouver son mentor, et voilà qu'il traîne dans un parc, et il voit un enfant, et c'est lui-même. Et alors je lui ai dit, mais c'est qui l'enfant ? Et le processus était engagé, il nous fallait inventer l'histoire.
Le mélo, vous êtes d'accord avec cette idée-là ou pas ?
Ah, j'adore la phrase de Fuller, le mélo, un drame en musique, ouais. Bien sûr. Mais je pense aussi à autre chose, c'est que dans les années 40-50, on disait un woman's film, pour parler des mélodrames. Alors, ouais. On en parlait avec mépris, on disait les films de femmes. Alors les films sérieux, c'était les policiers et les westerns, mais les films de femmes, alors ça c'était indigne. Douglas Sirk, etc.
Bien sûr.
Alors moi, évidemment... Peut-être suis-je une femme, je ne sais pas, mais j'adore les mélodrames. Donc, au contraire, je le brandis comme un étendard.
Mais vous avez exploré beaucoup de genres, mais à chaque fois, vous craquez le code un peu.
Ben, c'était amusant parce que, comme je m'étais permis de le dire devant vous, le mélodrame, il est peuplé de fantômes, quoi. Il y a des fantômes partout. Il y a Elena et ses fantômes, il y a Mathias et ses fantômes. Nadia, toi-même, tu dis là avec tes propres fantômes. Il y a des fantômes qui traînent dans tous les coins du film, quoi.
Et les fantômes de vous-même aussi.
Oui. Très certainement.
Ouais, qui sont légion.
J'essaye de les mettre dehors, mais ils reviennent.
Ben ouais. Et un peu de François Truffaut aussi. Notamment dans le prénom que porte Nadia dans ce film, qui s'appelle Claude, c'est Claude Jade.
Ah, vous pensiez à Claude Jade.
Il y a un Claude dans Les Deux Anglaises aussi.
Il y a un Claude aussi, bien sûr. Ah, ouais. Et puis, alors c'est marrant parce qu'on m'a dit, en parlant de Truffaut, il y a un évanouissement qui est au début du film, alors c'est pas un spoiler. Et alors on m'a dit, oui, mais alors évidemment, vous avez vu La Femme d'à côté. Et moi je disais, mais pas du tout, j'ai vu Fahrenheit 451. Je me souviens d'Oscar Werner s'évanouissant dans. Et voilà. Vous voyez, et puis cet éloge de la fuite. Truffaut, il dit, c'est magnifique, un homme qui s'évanouit parce qu'il s'enfuit. C'est sa stratégie, c'est s'enfuir comme ça.
Il y a aussi tous les ingrédients du mélo, l'amour impossible, le sacrifice, la séparation, l'absence, et puis des solitudes aussi.
Ils sont tous très très seuls. La première qui apparaît dans le film, c'est Claude, c'est Nadia, et elle n'a pas envie d'aller à une soirée, c'est la première scène. Et on la sent toute seule, quoi. Elle est mariée, elle a un enfant, et pourtant elle est toute seule. Et voilà qu'on découvre Elena. Et bon sang, mais qu'est-ce que tu es seule dans ce film, ma chère Charlotte. Ouais. Elle est toute seule, quoi. Et alors voilà qu'elle est rejoint. Alors lui, c'est le roi des seuls, c'est le Lonesome Cowboy. Et donc il arrive, donc il sait. Voilà, il y a un côté, chacun des personnages est seul. Et ouais, pourtant, ils tissent des liens de l'un à l'autre pour s'aider, comme ça, de chacun dans leur solitude, quoi.
J'ai l'impression qu'il y a plus de clarté que dans vos autres films, dans celui-là. Il y a plus de lumière.
Ah, ça, c'est grâce aux deux personnes avec qui j'ai écrit, parce qu'ils sont très lumineux et très clairs. C'est Ondine Loriot-Diprévost et Kamel Velkovski, susnommés.
Non, ouais, mais il y a un côté toujours inéluctable dans vos films, vos personnages. Et là, j'ai l'impression qu'il y a plus d'espoir.
Mais tous les films, ils nous apprennent ça. Tous les spectacles, ils nous apprennent ça. Que l'espoir, il est nécessaire. Moi, je suis contre les films où le héros se termine en suicidant dans d'atroces souffrances. C'est pas vrai, parce que la vie, elle advient toujours sur la mort. Et ça, il suffit de voir un film ou une pièce de théâtre pour le comprendre. C'est que la vie, c'est mécanique. Le bonheur, il gagne. Alors, évidemment, on est malheureux. Ça fait très, très mal de vivre. Et pourtant, à la fin, eh ben, la vie, elle advient sur la mort tout le temps, mécaniquement.
Mais c'est un film sur la guérison aussi, je trouve, parce que chacun arrive dans son genre à se guérir de quelque chose, à fermer une porte pour en ouvrir une autre sur l'avenir.
Ah, moi, je trouve. Je m'appuie sur Charlotte qui dit Alors, du coup, je suis d'accord.
Non, moi, je découvre. Là, je découvre.
Il faut bien mettre...
Vous parlez très bien de ce film.
Il faut mettre ensuite des visages sur ces personnages et elle, Elena, la grande pianiste, la mentor. On va écouter un extrait avec elle et vous, François Civil.
Mathias droit dans le feu gâteau. Pas de roue bateau, s'il te plaît. Mathias, tu traînes. Arrêtons. Je veux plus d'engagement à l'intro. Et droit dans le feu gâteau. Moins de timbales, moins d'emphase. On reprend la mesure 13. J'attendais beaucoup plus, tu es médiocre, je veux du travail. Et je veux plus voir une gueule de bois en face de moi au piano, plus jamais.
L'autorité naturelle de Charlotte Rampling. Mais j'ai pas l'impression que vous soyez comme ça dans la vie.
Ah,
vous êtes. Ouais, je voulais. Voilà.
On veut toujours savoir ce qu'on est dans la vie.
Dans
ce magnifique métier.
Vie.
Et pourquoi on dirait quoi que ce soit de ça.
Non,
on
mais.
Le garde secret.
Pourtant, vous avez fait des rôles jusqu'au boutiste, etc.
Ah oui, j'ai l'impression que je représente ça très bien, mais je ne sais pas d'où ça vient. Mais on ne sait pas.
On sait pas.
Ou le monde intérieur, qu'est-ce qu'il va donner.
Et vous ne voulez pas le savoir en plus.
Non, mais si, je le sais quand je vois mes films. Oui. Je dis, tiens, il existe quelque chose de assez.
Vous découvrez des choses sur vous en vous voyant dans les films. Et là, par exemple, vous avez découvert quoi?
Non, mais là, pas maintenant. À mon âge, j'ai découvert ça bien il y a bien longtemps.
Vous avez lu 3 fois le scénario. J'ai lu ça quelque part.
Ah, oui, c'est lui qui a imprimé des choses, voilà, qu'on a dit en secret. Tous ces secrets qui sont dévoilés.
Ben oui, pourquoi? C'est vrai. Non, mais vous avez hésité, vous avez...
Parce que j'hésite toujours, c'est ça, c'est nouveau. Moi, je vais toujours en reculant pour mieux sauter.
Qu'est-ce qui vous
Je me souviens d'une, d'une réplique qui était merveilleuse, qui est venue de la première fois où on s'est rencontrés. Et c'est parce qu'on parlait comme ça du scénario qui n'était pas terminé. Et je t'avais dit, je crois que j'avais essayé de te vouvoyer. Tu m'avais dit, non, on va se tutoyer, c'est plus simple. Et je t'avais dit, mais c'est vachement bien parce que quand il arrive, peut-être vous pourriez dire ou tu pourrais dire, range tes yeux, c'était moi la première. Et tu m'as dit, c'est bien ça, pourquoi c'est pas dans le scénario ? Alors je l'ai mis dans le scénario et tout d'un coup, et c'est une de mes répliques cultes dans le film, cette complicité qu'il faut y avoir entre Elena et Mathias, comme ça, où tout d'un coup on peut imaginer tout leur passé en tournée avec les amours de passage, etc.
Qu'est-ce qui aurait pu vous faire hésiter, Charlotte Rampling ?
Mes doutes ?
Oui, des doutes sur sur votre talent.
Non, oui, surtout, les doutes sont là, les doutes sont écrasants.
Mais sur le personnage lui-même, le personnage ?
Non, pas... C'est les doutes d'y aller. Voilà.
C'est une femme qui est très... C'est une artiste, comme vous, qui est très consciente de son grand talent et qui est très exigeante avec les autres, mais aussi avec elle-même. Et vous, pardon de revenir à la vraie vie, mais vous êtes très exigeante, vous, actrice, Charlotte Rampling, quand vous regardez, par exemple, quand vous jouez, vous essayez d'aller plus loin encore à chaque fois.
Non, pour de vrai, non. Je ne me regarde pas, mais je me sens, je me ressens, mais je ne me regarde pas. Pourquoi j'ai hésité ? Parce que... Parce qu'il fallait que je parle beaucoup à Arnaud, parce que c'était pas encore là, parce que c'était au grand début, c'était pas encore là. Donc c'est pas des hésitations, mais c'est bien, parce qu'on avançait ensemble, en fait.
C'était du travail.
Donc c'est ça qui était bien. C'est pas juste tout fini et tout là, voilà, on avançait, voilà, on explorait ensemble.
C'est pas une diva, d'ailleurs, dans le film, c'est plus que ça. Et dans le milieu de la musique, il y a beaucoup de personnages comme ça, ou pas, j'imagine.
Oui. Quand on parle des grands chefs d'orchestre aussi, ils sont c'est des monstres sacrés. Ouais. Elle dit qu'elle était un monstre. On est un monstre quand on arrive à un certain état, je pense, de ce talent et de ce rigueur qu'il faut avoir pour garder tout en avant que c'est un travail inouï.
C'est pour ça que vous avez choisi ce milieu-là de la musique classique aussi, pour avoir ce genre de caractère fort.
Ben, c'était des personnages très forts. Je sais pas, aussi parce que j'ai vu Argerich au piano, à la Philharmonie, c'est des choses dont on se souvient toujours, mais aussi parce que je savais que chacun de vos personnages allait quand même en baver un peu, c'est-à-dire on parlait de ses solitudes, mais je pensais au chagrin de Claude, à une sorte de forme de désespoir chez Elena, ou à ton extrême solitude à toi François, et je trouvais ça cool qu'il y ait de la musique. Que ça apaise, quoi. Quand je vous disais je voulais que la musique apaisait la peine, quoi. Donc je reprends toujours la phrase de Fuller, oui, le mélodrame, mais avec de la musique pour apaiser, quoi. Pour dire qu'à un moment, ils ont droit à un repos. Je pense à une scène qui m'émeut beaucoup, comme ça, c'est quand... Elena, qui est très drôle dans le film, elle dit « j'ai horreur de Debussy », etc.
Oui.
Et puis, on la voit jouer Debussy, et c'est un moment de désarroi pour elle, et tout d'un coup, le Debussy l'apaise. Et ça, je trouve ça super beau.
François Civil, vous avez fait le conservatoire plus jeune. Vous étiez conscient de cette discipline, vous voyez, dans ce milieu-là, quoi. Je ne sais pas ce que vous avez appris. Vous avez appris quoi au conservatoire ? Le piano, les différents instruments ?
C'est ça, le piano. J'ai fait un peu de solfège et un peu de piano, mais j'ai rejeté tout ça en bloc. Hein. Moi, c'est vrai que l'idée d'être assis et qu'on m'explique de taper avec une gomme sur une table pour avoir le rythme, non, ça ne me plaisait pas trop. Le piano, en revanche, c'était tellement plus... plus direct et sensoriel comme approche, que c'est moins théorique, en fait. Je crois que tout ce qui était théorique, de manière générale, j'ai eu tendance à le rejeter.
Donc vous comprenez aussi un peu ce qui arrive à ce garçon, du coup, cette rigueur, cette discipline de ce métier, qui n'est pas forcément votre discipline du métier d'acteur.
Je dirais qu'avec le temps, je suis devenu beaucoup plus sérieux et discipliné quant à mon approche de mon métier. Donc il y a des ponts à faire, peut-être. Mais la chance que j'ai eue, c'est que Arnaud m'a parlé du film... si tôt que j'ai pu m'astreindre en fait à la pratique du piano. Alors évidemment pas au niveau d'un virtuose ou en tout cas d'un très bon pianiste comme Mathias, mais déjà de tous les jours devoir jouer, j'avais l'impression de mettre tout doucement les chaussures de Mathias. Et quelles chaussures ? Souviens-toi, Arnaud, elle faisait du bruit. On les adorait.
On avait ferré ton personnage. Oui, comme ça. Quand il arrive, il fait peur. Évidemment, Claude est tout à fait terrifié. Quand il arrive, clac, 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 les pas de résonnent.
Et vous, Charlotte Rampling, vous n'avez jamais rêvé d'être actrice plus jeune ? Non.
J'en rêve toujours pas.
Ça tombe mal.
Et vous dites, le cinéma, j'ai toujours pensé que j'en ferais jusqu'à ce que je tombe. Pourtant.
Oh, qu'est-ce qu'on dit des choses.
Ben oui. Vous l'avez dit.
Oui, je l'ai dit. Voilà, je revendique. Oui. Est-ce que vous voulez que je le répète?
Non. C'est par rapport à Elena qui va peut-être arrêter ce métier, mais pas sans trop révéler. Mais vous allez... En plus, ça s'accélère pour vous, votre carrière, depuis quelques...
Non, mais moi, j'ai dit après un film que je ne ferai plus jamais de cinéma.
Ouais.
Chaque film, depuis très très longtemps. Et pourtant, je n'ai pas toute jeune. Hein. Donc, je suis toujours là. C'est ça, mais comme j'ai dit au début, c'est les doutes, c'est les ronjons, c'est des choses qu'on ne peut pas éviter, parce que c'est ça qui vit en nous, qui nous fait avancer ou reculer, ou vouloir mourir et aller jusque presque se faire crever pour renaître et tout ça. Il y a tous des systèmes là. C'est qui vit en moi.
Vous voilà. Êtes difficile.
Donc je suis extrêmement...
Ouais, difficile à comprendre.
Ça,
mais
psychologie, si je commence à attendre, on est...
Non, mais c'est drôle,
mais
parce
on est où, là? On est dans le cinéma.
Bah oui,
c'est ça. Des histoires.
Et vous êtes une actrice de cinéma. Jouer face à Charlotte Rampling, François Civil, c'est convoquer Visconti, Woody Allen, Cavani, Ozon, Mitchum, Newman et plein d'autres, et tout oublier, sinon on est mort.
Et convoquer des pluchins.
Oui.
En plus de tout cela. Oui, c'est vrai que... Ah, j'étais pas embarrassé de tout ça, j'avoue, là, ça me fout là. J'ai un coup de chaud, là, de ce que vous venez de me dire. Mais par contre, dans l'extrait qu'on a entendu, c'est vrai que c'était pas difficile. Il n'y a pas eu beaucoup de composition pour moi que de me sentir tout petit quand Charlotte se lève et me dit que je suis pas à la hauteur devant tout l'orchestre. Enfin, c'est vrai qu'elle a cette autorité naturelle dans le jeu. Parce qu'en dehors, je vais pas dévoiler son intimité, mais en tout cas, c'était jalonné de rire et de partage. Mais c'est vrai que il y avait une sorte de, je sais pas, d'admiration tout à fait naturelle de moi vers Charlotte et de Mathias vers Elena.
C'est plus un acteur et qu'une actrice, c'est deux regards, c'est deux personnes qui se regardent beaucoup et notamment au piano pour avoir la note justement, la bonne note. Il faut la regarder, Charlotte Rampling, hein, jouer effectivement.
Oui, et même. L'écoute, hein.
Oui.
Avant le regard, je dirais que pour un acteur, on parle toujours de l'écoute et de réagir plutôt que d'agir. Et ça même, ces questions-là étaient centrales au début de notre réflexion autour de Mathias, parce que c'est un personnage qui agit peu et qui accepte de se mettre en retrait, de s'exiler, de ne pas combattre pour récupérer la femme qu'il aime, qui est Claude, jouée par Nadia. Et donc, avant tout, je dirais qu'il y avait cette écoute mutuelle, je crois, entre Mathias et Elena.
C'est vrai, c'est l'écoute. C'est vraiment l'écoute. Et quand on a compris ça, on peut jouer.
Et ça, c'est valable pour beaucoup de films, tous les films.
Pour tous les acteurs, en fait.
Vous êtes d'accord?
Oui.
Ils oublient d'écouter. Ils oublient d'écouter, vous sentez qu'ils n'écoutent pas, donc vous n'y êtes pas.
Nadia, vous êtes d'accord? Nadia Tereskevitch.
Bah oui, surtout que quand on a la chance de jouer avec des grands acteurs, on n'a pas grand-chose à faire si on écoute... Il n'y a plus qu'à réagir.
Comment vous le définissez, Mathias? Comment vous l'êtes raconté? Un homme empêché?
Comment je me le suis raconté?
Ah bah oui.
De plein de... Comme tous les personnages du film, il est très riche et dense de plein de choses. Et comme tous les personnages du film, il fonctionne en dualité. Moi, assez tôt, ce qui m'est apparu en lisant le scénario, c'est les paradoxes de chaque personnage, leurs tiraillements moraux dans leur vie, à la fois professionnelle, cette vie de pianiste, et personnelle, qui est très tumultueuse, pleine de fantômes dont on parlait avant. Donc je dirais que c'était l'équilibre à trouver entre ces deux mondes. Je crois que c'est quelqu'un qui s'est mis... qui s'est anesthésié un peu lui-même, en tout cas depuis 8 ans. On comprend qu'il a quitté Lyon 8 ans auparavant. Et ce que j'aime, c'est que dans le cinéma d'Arnaud, souvent, il y a des questions qui sont posées et les réponses ne sont... Il faut lire un peu entre les lignes pour essayer de les saisir. Et j'aimais bien moi-même me demander s'il était parti par peur de ne pas être à la hauteur des demandes de sa mentor Elena, qui voulait faire de lui le plus grand pianiste du monde, peut-être. Ou parce que il était pris dans un triangle amoureux entre Claude et Pierre, son meilleur ami et son amante, et il a décidé de partir pour leur laisser la place. Et en fait, toutes ces questions-là, voilà, m'ont nourri pendant le film.
Il est dominé par trois femmes quand même, hein, par Elena, par Nadia et son rôle de Claude, et par votre mère aussi.
Anne Kessler,
Ouais. Arnaud de Plechin, c'est un garçon un peu manipulé par les femmes aussi, qui sait plus où il est,
Manipuler, je sais
pas. Pas manipuler, mais.
C'est une chose dont on avait parlé vraiment quand on s'est rencontrés, où François m'avait vraiment bluffé quand on parlait du scénario, parce qu'il avait lu, il citait les scènes, il citait les chiffres des scènes dans la page 64, etc. Très, très précis.
Donc le mot bluffé est bien choisi, parce que c'était vraiment au bluff.
Mais c'est que c'est quelqu'un qui il a choisi de se soumettre à la loi de Claude parce qu'il l'aime, il a choisi de se soumettre à la loi d'Elena parce qu'il l'aime. C'est aussi simple que ça, je te regarde entre ces deux femmes, et c'est vrai qu'il aime bien s'incliner devant deux femmes parce qu'il les admire et qu'il les aime. Et évidemment qu'il y a une tension amoureuse entre Elena et Mathias, bien sûr. Alors, il y a la différence d'âge, alors ça s'accomplit pas ou ça s'accomplit d'une autre manière, ça s'accomplit avec la musique, mais bien sûr que c'est une autre histoire de couple. D'ailleurs, à un moment, Nadia, tu lui fais une remarque vacharde sur Elena au parc, etc. Ouais. Évidemment, je sens la jalousie. Ah oui, l'autre femme que tu aimes, tu sais,
Elena. Je ne la dirai pas, cette phrase.
Vous avez un rôle, pour une fois, enfin, c'est rare, plutôt passif. Ouais. Mais passif, c'est déjà une action.
C'est ça. Bah, c'est un peu la trouvaille qu'il y a eu en préparation du film avec Arnaud, qui était très inquiet d'avoir écrit un personnage passif et qui était même embarrassé de me le proposer, alors que moi, j'y voyais que des trésors. Et ce choix dont on parlait de refuser de combattre, de s'exiler, je trouvais qu'il y avait de la noblesse, moi, dans ce geste.
Vous aviez les jetons de tourner avec des pluchins ?
Terrifié. Je suis terrifié d'être ici, d'ailleurs, et de les écouter parler. À la fois, je suis fasciné.
Mais pourquoi ?
Mais parce que c'est moi et mes problèmes, enfin. De légitimité.
Voilà.
Ah, mais comme Charlotte, on n'est pas obligé de tout dire.
Charlotte, on peut soulager.
Non, mais même question à tous les deux et à vous aussi, Nadia. Il fait peur ? Ça fait peur ? C'est quoi ? Ça fait partie du patrimoine d'auteurs français ?
Bon, je suis âgé, mais quand même.
Bah oui,
Non,
mais sans en entrer dans votre vie, voilà pourquoi vous êtes jeune acteur, tous les deux. Pourtant, vous avez quand même un petit peu voyagé dans vos rôles. Qu'est-ce qui pourrait faire peur avec des pluchins ?
Bah, c'est seulement lui qui l'a dit. Hein.
Oui.
Mais Charlotte, elle n'avait pas peur du tout.
Oui, et non. Nadia a dit rien de ça. Donc.
Non, mais je sais pas si c'est de la peur, mais forcément, en tout cas, moi, les films d'Arnaud, je les avais vus depuis adolescente, donc il y a quelque chose qui est... on sait dans quel univers on va se plonger, donc c'est une langue à s'approprier, c'est un cinéma où forcément on a admiré des acteurs, il y a une pression, on peut pas y aller... enfin, de toute façon, il y a une pression à chaque fois, mais en tout cas, moi, j'étais très intimidée avant de rencontrer Arnaud. Et puis on a envie d'être à la hauteur parce qu'un rôle c'est une responsabilité, c'est un engagement, et qu'on est déjà honoré d'être choisi, et donc après faut suivre derrière.
En tout cas, pour Saint-Civil, vous faites un truc dans ce film que vous n'avez jamais fait avant, qui est très romanesque. Vous vous évanouissez. Parce que je ne sais pas qui autour de cette table s'est évanoui dans la vie. Moi, je ne me suis jamais évanoui comme ça. C'est une posture romanesque et cinématographique.
Mais tu sais, Arnaud, il n'y a pas longtemps, j'ai repensé, enfant, la première fois que j'ai le souvenir de m'être évanoui, c'était devant un ascenseur.
Et ben voilà.
Voilà.
Nous
y sommes. Comme quoi, hein, on parlait de force surnaturelle hein, avec ce film aussi, c'est ça. Le personnage s'évanouit, ouais. Mais moi, je dirais qu'en fait, bizarrement, c'est toujours là que c'est... On peut lire... à travers le texte, c'est que, ou à travers ce qui se passe, c'est que pour moi, il était évanoui depuis 8 ans. Et en fait, c'est au moment où il revient en contact avec sa vie, avec ce qu'il a laissé, et les yeux dans les yeux avec Claude, qu'en fait, il se réveille.
Ouais. Nadia, vous vouliez dire quelque chose ?
Non, mais même par rapport à quand on parlait du cinéma d'Arnaud, c'est que chez Arnaud, il y a... Toutes les émotions sont grandes, c'est-à-dire que c'est pas juste qu'il est choqué, c'est qu'il s'évanouit.
Oui.
Et quand on pleure, on pleure. Enfin, tout est grand, et c'est ça qui apporte cette dimension tragique au film. C'est que c'est comme s'il y avait une forme de fatalité, et il faut qu'il se passe des choses pour que l'histoire avance. Et du coup, je trouve que ça commence parfaitement. C'est comme si l'histoire, elle était en route. Il s'évanouit et ça commence, parce que c'est le début de quelque chose dans l'histoire qui me concerne, parce qu'évidemment, c'est plein d'histoires qui s'imbriquent dans la trajectoire de Mathias.
C'est pour ça qu'on ne va pas trop loin dans le film. Arnaud Péchin, faut révéler très peu de choses, comme dans un mélo. Mais pour ça, Sylvie, encore une chose, vous pleurez encore au dernier plan d'un film ?
Non.
Mais vous l'avez fait ?
La première fois, ça m'avait surpris.
Ouais.
Que toute une équipe applaudisse un acteur, et j'étais sorti sur un film de Laurence Ferreira Barbosa, un des premiers que j'ai fait, j'avais 14 ans,
ouais.
Et j'avais vécu
soit
une expérience.
Meurs, soit je
Soit je vais mieux. Ouais, je... Ce titre, personne n'a jamais su le dire. mais c'était bien ça. Soit je meurs, soit je vais mieux.
Ouais.
Et écoutez, bah oui, quand on a 14 ans et qu'on vit deux mois entouré d'adultes qui nous regardent, qui nous considèrent, et où on a l'impression d'être à notre place, de trouver entre actions et couper des moments de liberté, de joie absolue, j'ai été cueilli, c'est vrai.
À ce propos, la semaine dernière, on a reçu trois jeunes acteurs tout neufs, tout beaux, tout enthousiasme, les trois acteurs de Nouvelle Vague. Qu'est-ce que vous avez perdu en chemin ?
Waouh ! Oula !
Un peu d'anonymat. ça, c'est bien dommage. Qu'est-ce que j'ai perdu en chemin ? Non, je me sens tellement plus riche de plein de choses que c'est dur de me concentrer sur ce que j'ai perdu.
Et vous, en revanche, vous avez gagné plein de choses. Vous avez gagné l'expérience, oui. La confiance en vous.
Bien sûr, et puis en fait, simplement le sentiment de... Alors, c'est peut-être complètement cliché ce que je vais dire, mais de faire partie d'un truc un peu important parfois. De raconter des histoires, j'ai l'impression que c'est la chose qui est un des fondamentaux de l'humanité. Et donc, se raconter des histoires les uns les autres, essayer de s'émouvoir, et donc participer à ce processus, en plus sur un tournage où c'est une expérience très très collective, où on a tous la foi en une histoire, en quelqu'un qui la dirige, je trouve ça beau.
On va vous écouter tous les deux, c'est une scène dans le parc, donc Claude et Mathias a aimé Claude dans le passé et ils vont se retrouver, on n'en dit pas plus, hein, vous êtes plus chers. On écoute cette belle scène entre vous deux.
Bonjour.
Bonjour. Tu m'as trouvé ?
C'est une petite ville. Pourquoi tu regardes tes pieds ?
Parce que j'ose pas te regarder. De toute façon, c'est comme ça depuis que je te connais. Ça me fait toujours un choc, quoi.
Je suis pas très spectaculaire.
Tu es spectaculaire.
Je t'aurais laissé sortir avec moi pendant 3 semaines d'affilée, t'aurais pris l'habitude. Tu te serais lassé. T'aurais sauté dans les bras d'une autre.
T'étais jalouse.
Bien sûr. J'ai dit t'être tournée autour, je supporte pas.
Tu voulais pas de moi ?
Non, non.
Et tu veux toujours pas de moi ?
Non. T'es encore pianiste, toi ? Tu t'es pas lassé.
Je sais rien faire d'autre.
Et moi, je comprends rien. La musique, ça me saoule. Tu as la gueule ?
Oui.
Bah, explique-moi alors. C'est comment la musique ?
La musique, c'est...
Oh, waouh. C'est beau alors.
Ce joli rire cristallin de Nadia Tereskevitch. Au début, vous avez dit, j'ai pas compris tout de suite le rôle de cette.
Ah oui, je sais même pas si je l'ai compris.
À la fin.
Non, mais je sais même pas si c'est important de tout comprendre chez quelqu'un. Ouais. En tout cas, je l'ai trouvée très touchante. Dès le début, ce portrait de femme. C'est comme si, pendant tout le film, elle se cherchait et elle arrivait à se révéler à elle-même. Et en parallèle de ça, j'ai essayé de la comprendre aussi. Il y a quelque chose de... Il y a quelque chose qui m'a beaucoup parlé parce que j'aime beaucoup la littérature. Et Arnaud, dès le début, m'avait dit il y a quelque chose entre Madame de la Mole et Madame de Rênal chez Stendhal. Oui. Donc il y avait à la fois sa jeunesse, le fait qu'elle ait une forme de... qu'elle soit heureuse, grisée d'avoir du pouvoir sur Mathias, et de l'autre côté, sa responsabilité, son veuvage, sa culpabilité. Et il y avait quelque chose dans ça, le fait qu'elle soit assez pleine de contradictions et assez inactuelle.
C'est comme un mélange de romanesque et de réalisme, en fait, ce personnage.
Oui, complètement.
C'est pour ça que c'est compliqué à incarner, ça, effectivement. Elle a des responsabilités, mais elle retrouve cet amour de jeunesse. Elle est un petit peu enflammée, mais elle ne peut pas vivre complètement cet amour.
Non, parce que c'est quelqu'un qui a choisi la raison, et que quand elle se retrouve envahie par... elle est débordée par ses émotions, elle ne peut plus contrôler la fougue et toute cette passion qu'elle a restreint. Ça, j'ai trouvé ça génial, parce que c'est beau un personnage qui ne contrôle plus et qui se débat avec ce qu'elle ressent, ce qu'elle devrait faire. Et je pense qu'on le comprend, ça. C'est comme s'il fallait que... Voilà, ces personnages, ils ont vécu une grande passion et ils devaient... Ouais, je ne veux pas spoiler, mais... Enfin, voilà, ils veulent la... ça doit se terminer à un moment donné, parce que sinon, la passion, elle n'existe plus. Il y a quelque chose à préserver qui fait partie d'avant. Et je trouvais ça très beau aussi, des personnages qui se rencontrent sur une fin de quelque chose, avec tout un passé qu'il fallait se construire et qu'on s'est raconté à nous-mêmes. C'est-à-dire que j'en ai pas tant parlé à Arnaud. J'ai l'impression que voilà, je me suis imaginée... J'adore faire ça, se raconter toute la vie d'un personnage avant. Est-ce qu'elle a attendu 8 ans, Mathias? Est-ce qu'elle est jalouse de toute cette vie auquel elle n'accède pas? Elle n'a jamais rencontré Elena. Je trouve ça fou que ce personnage qu'il a aimé ne connaisse pas Elena. Enfin, voilà, il y a toute une partie de la vie de Mathias qu'elle ne connaît pas. Et d'ailleurs, même moi, parce que j'ai découvert le film, toute la moitié du film, je la découvre.
Parce qu'en général, les films parlent d'histoire d'amour. Là, c'est beau de se dire comment déconstruire un amour. Comment finir? Comment fermer une porte, justement?
Mais comment fermer? J'ai l'impression que tous les personnages, Nadia parlait de la fatalité. Il y a la fatalité, c'est la première scène du film. C'est une histoire de Martin Buber, comme ça. Un type va voir le rabbin de Netzij, et puis voilà, le mari a disparu, et puis il y a une kippa mouillée, il y a le destin qui vient frapper à la porte, quoi. Et donc tous les personnages, j'ai l'impression, sont un peu pris par le destin ou pris par leur passé. Je pense à Elena aussi, qui est captive de son passé. Mais tous les trois, vous l'êtes. Et j'ai l'impression, il y a une réplique que j'aime beaucoup de Max, qui est joué par Hippolyte Girardot. C'est, il dit, des fois, il faut laisser les choses foutre le camp. Et c'est que quand vous n'en pouvez plus du passé, il faut vous ébrouer et foutre le camp ailleurs. Il n'y a pas d'autre solution. Et j'ai l'impression que les trois personnages, ils foutent le camp. Voilà. Et cet éloge de la fuite, eh bien, une fois de plus, je trouve ça super. C'est-à-dire que quand on ne s'en sort pas avec le passé, bah, tant pis, il faut inventer du nouveau. Quoi. Et du coup, c'est peut-être le côté optimiste que vous trouviez à l'intrigue.
Quel truc il a, lui, Arnaud Desplechin, en direction d'acteur Charlotte Rampling, parce que chaque fois on est ébloui par sa direction d'acteur, par ce qu'il en fait de ses acteurs. Vous, comment il vous a dirigé?
Bah parce qu'il aime vraiment les acteurs.
Ouais.
Il aime passionnément la créer avec les gens qu'il invente vraiment un rapport. Et c'est pas la mise en scène, les grands metteurs en scène n'ont pas nécessairement comme ça, mais lui en tant que quelqu'un qui peut créer des beaux films, mais en même temps, c'est pour les acteurs, c'est que émotionnel. C'est-à-dire l'émotion qu'il a quand il travaille avec vous, c'est comme s'il joue avec vous.
Pareil pour vous, François Civil.
Je suis tout à fait d'accord, mais aussi je dirais que tous les personnages du film sont Arnaud. Et ça, comme tu l'as dit, je me permets de le répéter. Mais du coup, est-ce que ça fait de lui quelqu'un d'égocentrique mais il aime ses personnages comme peut-être il sait, je ne sais pas. Mais en tout cas, il a comme ça. Il est acteur, Arnaud, en fait. Mmh. C'est-à-dire que avant même de commencer le film, on fait des lectures ensemble, jamais entre acteurs, mais toujours avec Arnaud autour du personnage, parce qu'il nous dit que chaque personnage doit arriver avec son secret sur le plateau.
Oui.
Et donc, en fait, on ne se rencontre pas avant de jouer les scènes. Donc, dans le cas de Claude et Mathias, ça nous arrangeait, parce qu'il y avait 8 ans entre la dernière fois qu'ils se sont vus et la scène de l'ascenseur. Mais donc, avec Arnaud, en préparation, on lit le scénario et Arnaud joue avec nous. Et donc tu joues les scènes, et même sur le plateau, on réinvente le texte, mais tu joues avec nous. Et même la veille au soir, tu vas sur le décor faire ce qu'on appelle le blocking, donc les positions des personnages dans l'espace. Ouais. Et quand on arrive nous sur le plateau, ce qui n'est jamais le cas normalement, hein. Normalement on arrive le matin, on essaie de trouver la scène avec le metteur en scène, et là Arnaud nous propose déjà plein de mouvements. Et au début j'étais un peu pas frustré, mais je me suis dit, mais qu'est-ce que je dois faire? Du coup, j'ai juste à dire les mots dans l'ordre et fin de journée. Et en fait, je trouvais que toutes les décisions qu'il avait prises pour moi au préalable étaient tellement justes pour le personnage que je me posais plus la question, et je me suis complètement abandonné à ce processus. Et donc voilà, je dirais son amour pour ses personnages et pour ce qu'est un acteur.
Et son amour du cinéma, Arnaud Desplechin. Deux pianos, votre nouveau film sort mercredi prochain. Vous restez avec nous, Charlotte Rampling, Nadia Tereskevitch et François Civil. On se retrouve avec Laurent pour les sorties après Billie Eilish, L'amour de ma vie.
I wish you the best for the rest of your life. Felt sorry for you when I looked in your eyes. But I need to confess, I told you a lie. I said you were the love did I break your heart? Did I waste your time? I tried to be there for you, then you tried to break mine. It isn't asking for a lot for an apology, for making me feel like I'd kill you if I tried to leave. You said you'd never fall in love again because of me, then you moved on immediately. But I wish you the best for the rest of your life. Felt sorry for you when I looked in your eyes. But I need to confess, I told you a lie when I said to you, you were the love of my life, the love of my life.
France Inter. On aura tout vu. Christine Masson et Laurent Delmas.
Laurent, on va commencer par Berlinguer, la grande ambition d'Andrea Segre, Italie 75. Enrico Berlinguer, chef du plus puissant parti communiste d'Occident, défie Moscou et rêve d'une démocratie nouvelle. Le portrait d'un homme habité par ses idéaux.
Oui, c'est le cinquième long métrage d'un documentariste italien très prolixe. Il sera d'ailleurs honoré au festival du film italien de Villerue prochainement. Alors certes, on est assez loin de Moretti ou de Bellocchio pour le traitement de cette grande histoire italienne du siècle passé, mais le film à tout point de vue est très intéressant parce que, comme le dit d'ailleurs Moretti lui-même, comme il l'a dit à la sortie du film, Berlinguer, c'est peut-être la dernière grande figure de la gauche italienne en tout cas, et aussi peut-être même européenne. Ça reste un parcours absolument hors norme qui aurait voulu faire une sorte de synthèse incroyable, un compromis historique comme on disait à l'époque. Et l'acteur Elio Germano l'incarne avec énormément de charme et d'intelligence. C'est vraiment un très beau film politique recommandable.
Égoïste de Daichi Matsunaga, riche et prestigieux éditeur dans la mode. Il est très soucieux de son apparence. Kosuke, il embauche son coach sportif. Au fil des entraînements, une romance s'installe entre les deux hommes. Mais Ryota décide de mettre brusquement fin à leur relation. Un couple homo sur grand écran. La société japonaise n'est pas encore vraiment prête. Ce n'est pas la seule transgression de ce film qui filme effectivement frontalement la sexualité de ces deux hommes et les raconte comme un couple face à une société fermée à la question, Laurent.
Oui, et ce qu'il y a de très beau, c'est aussi des scènes un peu à part dans le film où l'un des protagonistes discute avec ses amis homosexuels dans un bar et ce sont des acteurs non professionnels. Et ça, c'est vraiment une dimension très très belle qui met du réalisme dans ce qui reste un film de fiction, mais ça capte avec beaucoup d'intensité dans ces cas-là, des moments de grâce.
Météore, deuxième film après Petit Paysan d'Hubert Charuel avec Claude Lepape, trois amis inséparables. Denis est devenu le roi du BTP, Mika et Dan, eux, ont beaucoup de rêves et pas beaucoup de chance. Après un nouveau plan raté, Mika et Dan doivent se sauver d'ici et même se sauver tout court. Ils se retrouvent à bosser pour Tony dans une poubelle nucléaire. L'Est de la France, les ravages de l'alcoolisme, de la drogue chez les jeunes et de l'industrie nucléaire dans cette région. Et au-delà, l'amitié qui surpasse les épreuves avec deux sacrés comédien face à face, Idir Azoughli et Paul Kircher.
Après Petit Paysan, c'est une nouvelle plongée fictionnelle, dans un environnement professionnel toujours très très documenté. Ici, donc, vous le disiez, c'est une usine de traitement de déchets nucléaires, c'est pas très reluisant, mais peut-être que le plus réussi dans ce long métrage, ce sont justement les moments où le film s'évade de ce contexte social pour se promener dans des territoires beaucoup plus irréels, presque fantasmatiques, presque fantastiques, et où, par exemple, l'étrangeté de ce lieu incroyable qui est est l'usine de retraitement, devient absolument labyrinthique. Malheureusement, le film hésite peut-être entre justement trop de pistes scénaristiques et n'en choisit aucune au bout du compte. C'est un peu dommage.
Nos jours sauvages est un premier long métrage du grec Vassilis Kekatos. En rupture avec sa famille, Chloé, 20 ans, est recueillie par un groupe de jeunes itinérants au bord de leur van. Ils sillonnent la Grèce des oubliés venant en aide aux plus démunis, moyennant des combines pas toujours légales. Un film tourné comme un vrai road trip où chaque protagoniste est une extension intime de l'acteur qui l'incarne. C'est plus un groupe décrit ici que des populations oubliées, Laurent.
Oui, alors c'est une sorte de bande de Robin des Bois, enfin emmenée par une Robin des Bois, on va dire, qui décide de spolier les prêteurs sur gage, ou plutôt de restituer aux populations les biens spoliés par les prêteurs de gage. C'est un bon début, c'est un début en tous les cas qui permettrait aussi de rompre avec les clichés touristiques de la Grèce des îles, et ça on s'en réjouit. Malheureusement, le fait que le personnage principal féminin est de tous les plans, phagocyte le film en quelque sorte, et le road movie porté par une musique assez poussive d'ailleurs, finit par tourner à vide, c'est bien dommage.
Hors service, un documentaire de Jean Boiron, l'âge où 6 démissionnaires de la fonction publique sont réunis dans un hôpital abandonné en investissant les lieux, les anciens juges, policiers, anesthésistes, réanimateurs, enseignants et facteurs échangent sur la souffrance au travail. Ils ont pris le risque de la précarité, tous.
Oui, il est bien loin le temps où Ferra chantait « Ils seront flics ou fonctionnaires, de quoi attendre sans s'en faire que l'heure de la retraite sonne ». Ben, c'est fini, parce que ces fonctionnaires, eux, sont victimes de burn-out bien avant la retraite, et c'est ce que raconte de façon très intelligente ce film, notamment en frisant avec le docu-film, en demandant aux protagonistes, mais qui sont des vrais gens dans la vraie vie, vous venez de le dire, de retourner des scènes, de se confronter aussi aux autres, et ça donne un sacré portrait de cette économie libérale qui arrive même à fracasser les agents du service public.
Alger, c'est un premier long de Chakib Taleb Ben Diab. L'enlèvement d'une petite fille crée tension et suspicion à Alger. D'ailleurs, les enlèvements d'enfants et la pédophilie, une réalité contemporaine, est tabou en Algérie. La ville blanche filmée comme un personnage, un tout petit budget pour ce film, 500 000 dollars.
Oui, alors moi je trouve quand même que le titre français, qui n'est pas le titre original, est quand même un peu trompeur. Parce que comme vous dites, on aimerait bien avoir un très très beau portrait de cette ville confrontée à cette espèce d'enfer. On nous parle des caves, des sous-sols, mais c'est pas montré, c'est pas réellement incarné comme un personnage. Et même l'Algérie politique, dont on voit bien qu'elle pourrait être un autre personnage et ô combien douloureux, hélas, n'est pas traité. C'est dommage.
Merci. L'invasion du cinéaste ukrainien Sergueï Losnitsa, qui a filmé pendant 2 ans des civils ukrainiens attaqués par la Russie, proche ou loin du front. Mariage, naissance, enterrement, centre de réfugiés. Un film sans commentaire, à la bonne distance. Et ces images, Laurent, racontent la résilience et la résistance.
Oui, c'est absolument saisissant. À la base, c'est 28 épisodes qui faisaient plus de 6 heures. Losnitsa a fait un montage. Losnitsa, grand cinéaste ukrainien qui passe son temps entre documentaire et fiction. On verra bientôt son nouveau film de fiction, Deux procureurs, qui est absolument saisissant. Et là, la façon dont il nous compte, entre guillemets, la vie quotidienne à travers de longs plans séquences sur ce que vivent les Ukrainiens chaque jour au quotidien, c'est absolument merveilleux. C'est une sorte d'archive pour demain, et pour l'instant, c'est un sacré document vérité.
Et enfin, nouvelle vague de Richard Linklater, ceci est l'histoire de Godard tournant à bout de souffle, raconté dans le style et l'esprit de Godard tournant à bout de souffle. Un délicieux témoignage d'un Américain, lettre d'amour à une époque, une bande, une énergie. Et au-delà de ce film qui respire la liberté, c'est aussi un hommage, dit Linklater, à ceux qui veulent faire des films, des pirates, des aventuriers. Ce film nous dit, mais allez-y si vous voulez faire du cinéma.
Le truffaldien que vous êtes, Arnaud Desplechin, sera conquis par ce film, on n'en doute pas.
J'irai voir aussi Salif Cissé dans Météor, bien sûr.
Ben oui, absolument. Bien sûr. Et festival, deux festivals vite avant les cadeaux.
Deux festivals très vite. Vous irez à Lille-Rousse, en Haute-Corse, au festival L'Issoula Ciné Musica, d'autant plus que c'est votre film qui fait l'ouverture de ce festival entre ciné et musique. C'est du 14 au 21 octobre.
Ne me dis rien.
Ben, je vous l'apprends. Et puis du 13 au 16 octobre.
Tout en Corse.
Du 13 au 16 octobre, partout en France, il y a le festival du film social. Très très beau sujet, évidemment.
Alors, les cadeaux.
Les cadeaux. Pour vous, Arnaud Desplechin, L'état des choses de Wim Wenders, qui sort pour la première fois en Blu-ray. C'est un film sur un film, évidemment, sur le tournage au Portugal. Je vous demande de le faire passer. Restauration 4K, c'est Blu-ray. Chez Carlotta. Et c'est évidemment un merveilleux film qui fait écho à ce que Wenders avait vécu aux États-Unis en tournant à Metz, son film américain, avec beaucoup de difficultés. C'est un beau film sur le cinéma.
Ah, que j'ai vu, mais que je reverrai.
Oui, évidemment, je n'en doute pas un seul instant que vous l'avez déjà vu. Charlotte Rampling, on a pensé à vous en recevant un film assez méconnu de Joseph Losey qui s'appelle La Bête s'éveille. Il l'a tourné au Royaume-Uni quand il a été chassé des États-Unis pour au moment du McCarthyisme. Et c'est avec quelqu'un, un acteur que vous connaissez un peu, qui s'appelait Dirk Bogarde. Voilà, c'est pour ce petit clin d'œil à votre carrière commune. Mais c'était aussi le premier film de Bogarde avec Losey. Ils en ont tourné 5 après. Ouais. C'est chez Studio Canal. C'est là aussi une très belle édition. Pour vous, Nadia Tereskevich, on a pensé à Arc de Triomphe. Là aussi, c'est pas un film très connu, mais il y a une certaine Ingrid Bergman, et on est heureux de vous offrir un film avec Ingrid Bergman. C'est une belle ancêtre, en quelque sorte. C'est chez Sidonie. C'est un grand film noir qui se passe sous l'occupation. C'est un complot DVD Blu-ray avec le dénommé Charles Boyer. Et puis, pour vous, vous me regardez avec inquiétude, François Civil, ne vous inquiétez pas. C'est DiCaprio pour vous. Voilà, je ne sais pas pourquoi on a pensé ça. Voilà, DiCaprio,
oui,
le roi Léo.
Vous adorez Titanic, en plus.
J'adore Titanic. Ouais. J'ai vu Une bataille après l'autre hier.
Bah oui.
Et ben voilà.
Mais film, mais aller voir Le Piano, c'est beaucoup mieux.
Bah les deux, allez,
on devrait voir les deux. Je le dis quand même, c'est DiCaprio, le roi Léo de Guillaume Evin, c'est chez Hugo Image, le charme de Redford, l'intensité de De Niro.
Merci beaucoup. Merci. De Piano. Arnaud Desplechin sort mercredi prochain.
Courez le voir.
Merci à notre Rampling, merci François Civil, merci Nadia Tereskevich. Merci à notre équipe, Valérie Ayestaraï à la réalisation, Benjamin Ducy pour la préparation et Thierry Dupin pour la programmation musicale.
C'était On aura tout vu sur France Inter.
Au revoir.